Vous écoutez VOA Afrique, il est 5h à Washington DC, 9h en temps universel. Rosine Mounezelo dans ce studio pour vous présenter son bulletin d'information. Bonjour et bienvenue en RDC. Les combats ont repris samedi après un bref moment d'accalmie entre les rebelles du M23 et les FRDC, forces gouvernementales et leurs alliés dans la cité stratégique de Saké, où 8 casques bleus ont été blessés selon l'ONU. La chef de la mission de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a dans son communiqué condamné cette attaque contre des casques bleus. Le porte-parole de l'armée congolaise honore Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, a accusé l'armée rwandaise d'avoir ciblé la position de la MONUSCO à Saké lors des affrontements entre les FRDC et le M23. Le Rwanda a toujours démenti une quelconque implication dans le conflit dans l'est de la RDC. Au Nigeria, plusieurs responsables politiques et de la société civile ont appelé à la retenue dimanche au lendemain de l'annonce de la mort de 16 militaires tués dans l'état pétrolier du Delta. Samedi, l'armée nigériane avait annoncé la mort de 16 militaires tués le 14 mars alors qu'ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés de deux villages voisins, d'Okuama, d'ethnie Urobo, et de Koloba, d'ethnie Ijaoué, située le long de la rivière Forcados. La presse locale a fait état ces dernières semaines d'affrontements entre ces deux communautés, chacune revendiquant la propriété de terre et se disputant les droits de pêche qui auraient fait plusieurs morts. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son second et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont fait campagne samedi en Casamance, 2 jours après leur libération de prison. La Casamance aurait dû être la capitale économique et culturelle du Sénégal en raison de ses nombreuses potentialités agricoles, forestières et touristiques, notamment, a dit M. Faye. Il a promis, s'il est élu, de faire des problèmes de cette région enclavée et minée depuis plus de 40 ans par une rébellion indépendantiste armée, une urgence à régler.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le président russe Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près de 25 ans, a récolté plus de 87% des suffrages après dépouillement de plus de 99% des bureaux de vote, selon l'agence officielle russe RIA Novosti, citant la commission électorale. Il s'agit de son meilleur résultat à l'issue d'un scrutin d'où l'opposition a été écartée. S'adressant aux Russes en fin de soirée, M. Poutine a remercié ceux qui sont allés voter et qui ont permis de créer les conditions d'une consolidation politique interne 2 ans après le début de l'assaut contre l'Ukraine et de l'adoption de sanctions sans précédent par les Occidentaux, a-t-il dit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que M. Poutine était un homme ivre de pouvoir voulant régner éternellement. La Chine a de son côté félicité lundi Vladimir Poutine au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle, se disant convaincu que les relations entre les deux pays continuent à progresser dans les prochaines années. La Chine et la Russie sont des partenaires de coopération stratégique globale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré dimanche devant le chancelier allemand Olaf Scholz qu'Israël ne lancerait pas d'opérations militaires à Rafah dans le sud de la bande de Gaza tant que la population serait enfermée sur place. Près de 1,5 million de Palestiniens sont entassés dans cette ville selon l'ONU. Le chancelier allemand Olaf Scholz a de son côté, appelé à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu durable. Il a dit comprendre les familles d'otages qui disent que le temps est venu pour un accord afin de sauver les personnes captives. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé dimanche en Corée du Sud une brève tournée en Asie qui le mènera également aux Philippines. Les États-Unis redoublent d'efforts pour raffermir leurs relations avec des pays asiatiques, dont les Philippines, pour faire contrepoids à la Chine.